Антон Чехов. Путешествие на остров Сахалин.
Антон Чехов. Le voyage à Sakhalin.
Читает Владислав Галяр.
Lu par Vladislav Galar.
Des essais, des feuilletons, des bêtises, des vaudevilles, des histoires banales, tout un tas d'erreurs et d'inepties, des tonnes de papiers noircis, un prix de l'Académie, et dans tout cela, pas une seule ligne qui, à mes yeux, aurait une réelle valeur littéraire. J'ai furieusement envie d'aller me cacher environ 5 ans, n'importe où, afin de m'atteler à un labeur minutieux et sérieux. Je dois étudier, tout reprendre depuis le début, car en tant qu'homme de lettres, je suis un ignorant complet. Je dois écrire avec conscience, avec sentiment, avec intelligence, écrire non pas 5 feuillets par mois, mais un seul en 5 mois. Je dois quitter la maison, arriver à vivre avec 700 ou 900 roubles par an au lieu de 3 ou 4 000 comme maintenant. Je dois faire une croix sur beaucoup de choses. En janvier, cela me fera 30 ans. Quelle infamie!
Premier épisode.
Первая серия.
Un manteau de cuir, un revolver et un grand couteau pour couper le saucisson et chasser le tigre.
Revolver, большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров.
Janvier 1890. Tchekhov a 30 ans. Au début de l'année précédente, Ivanov, sa première pièce, a triomphé à Saint-Pétersbourg. Mais l'écrivain est vite lassé de ce succès. Pour qui et pourquoi est-ce que j'écris ? Demande-t-il à Alexei Souvorine, son éditeur et ami. Pour le public, mais je ne le vois pas ce public. Et je crois en lui moins qu'en un domovoy. Il est inculte, mal élevé, et ses meilleurs éléments ne sont pas sincères. Suis-je nécessaire à ce public ou ne le suis-je pas ? Je suis incapable de le comprendre. En somme, ma vie m'ennuie. Et parfois, je me mets à tout prendre en grippe, ce qui ne m'arrivait jamais avant. Au printemps 1889, l'état de santé de son frère Nikolai, peintre sans envergure et aimable ivrogne, se détériore rapidement. L'artiste, comme Anton le désigne avec tendresse, meurt le 17 juin de tuberculose. Tchekhov, qui est resté rivé 3 mois à son chevet, est dévasté de chagrin. Il passe l'été à Yalta, où, malgré la chaleur et sa fascination pour la mer bleue qui s'étale à perte de vue, il rédige la plus grande partie d'un récit étrange et désespérant, une banale histoire, qui paraît en octobre dans le Messager du Nord. L'accueil est sévère. Dans les milieux littéraires, certains font entendre des comparaisons défavorables avec la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, publiée 3 ans plus tôt. Tchekhov se lance alors dans l'écriture d'une nouvelle pièce, L'Esprit des Bois, où il prend le contre-pied de ce qu'il a fait dans Ivanov. Il veut éviter les coups de théâtre, substituer à l'action extérieure une action intérieure et montrer la vie telle qu'elle est. Après la première représentation au théâtre Abramov de Moscou, le 27 décembre 1889, la critique se déchaîne contre une œuvre qui fait fi de toutes les lois dramatiques. L'auteur se le tient pour dit. Il range sa pièce dans un tiroir et refuse qu'elle soit publiée. Au milieu de cet abominable état d'esprit qui le poursuit depuis l'été, une étincelle jaillit pourtant. Tchekhov tombe sur des notes prises par son jeune frère Mikhail, étudiant en droit. Toute notre attention est concentrée sur le criminel, mais dès qu'il est envoyé en prison, nous l'oublions complètement. Or, que se passe-t-il en prison ? Dès cet instant, l'idée ne le lâche plus. S'en aller au fin fond de la Sibérie, oublier les grimaces des littérateurs envieux pour regarder la vraie souffrance en face. Celle des forçats de l'île de Sakhalin, dans le Pacifique.
Anton Tchekhov à Alexei Sergeevich Souvorin.
Alexei Souvorin, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps Nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Souvorin publie les récits de Tchekhov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes. Les opinions réactionnaires de l'influent Mania s'exacerbent et Tchekhov rompt bientôt avec lui.
Soumis,
le 4 mai 1889. Je vous écris, cher Alexei Sergeyevitch, de retour de la chasse. J'ai attrapé des écrevisses. Il fait un temps merveilleux, tout chante, tout fleurit, tout resplendit de beauté. Le jardin est absolument vert, même les chênes ont éclos. Les troncs des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des pruniers ont été badigeonnés de blanc. Tous ces arbres sont couverts de fleurs blanches, si bien qu'ils ressemblent étonnamment à des fiancés à la noce. Robes blanches, fleurs blanches, et même air innocent, comme s'ils avaient honte qu'on les regarde. Chaque jour naissent des milliards de créatures, rossignols, hérons, coucous, et autres espèces à plumes s'égosillent sans répit nuit et jour, et les grenouilles les accompagnent. Chaque heure du jour et de la nuit a sa particularité. Les nuits sont de clair de lune, les journées éclatantes, d'où il s'ensuit que mon humeur est excellente. Et sans le peintre avec sa toux et sans les moustiques, je serais un parfait Potemkin. La nature est un très bon sédatif. Elle apaise, j'entends par là qu'elle rend indifférent. Or, il est indispensable en ce bas monde d'être indifférent. Seuls les indifférents sont capables de voir clairement les choses, d'être justes et de travailler. Cela ne concerne bien sûr que les êtres intelligents et généreux. Les égoïstes et les gens vides sont bien assez indifférents sans cela. Vous m'écrivez que je me suis laissé aller à la paresse. Cela ne veut pas dire que je sois devenu plus paresseux que je n'étais. Je travaille aujourd'hui tout autant qu'il y a 3 ou 5 ans. Travailler est devenu une habitude chez moi. Je suis, en la matière, un véritable fonctionnaire. Et si par mon travail je ne parviens pas à fournir 2 récits par mois ou 1 000 roubles de revenus par an, il ne faut point incriminer ma paresse, mais ma nature organique et psychique. Pour la médecine, je n'aime pas assez l'argent, tandis que pour la littérature, je manque de passion et par conséquent de talent. En moi, le feu brûle de manière languissante et régulière, sans brusque lueur ni crépitement. Il ne m'arrive donc jamais d'écrire en une seule nuit 3 ou 4 feuillets d'un coup, ou d'être empêché, emporté par le travail, de me mettre au lit quand le sommeil me prend. C'est pourquoi je ne suis l'auteur ni de saillantes bêtises, ni de notables preuves d'intelligence. Je crains sous ce rapport de ressembler beaucoup à Gontcharov, que je n'aime pas, et qui par le talent me dépasse de 10 têtes. Ajoutez à cela le genre de psychopathologie suivant, j'ai tout d'un coup, voilà 2 ans déjà, cessé d'aimer voir mes œuvres publiées. Je suis devenu indifférent aux critiques et débats littéraires, aux ragots, aux succès, aux échecs, aux gros honoraires. Bref, je suis devenu le roi des imbéciles. J'ai au cœur une sorte de marasme, que je m'explique par le marasme de ma vie privée. Ce n'est ni déception, ni lassitude, ni mélancolie. Simplement, tout est devenu soudain moins intéressant. Il faut se parsemer un peu de dynamite sous le derrière. Rapportez-moi de l'étranger livres et journaux interdits. Sans l'artiste peintre, je serais parti avec vous. Dites à Anna Ivanovna que je lui souhaite de tout cœur le plus gai des voyages. Si vous jouez à la roulette, misez à ma bonne fortune 25 francs. Eh bien, que Dieu vous donne la santé et tout le meilleur. Votre Anton Tchekhov.
À Alexei Nikolaevich Plechev.
Alexei Plechev, c'est le grand aîné, critique et poète fameux, aristocrate et libéral. À la fin des années 1840, comme Dostoïevski, il avait été condamné à l'exil. En 1888, à la publication de La Steppe, Plechev écrit son enthousiasme à Anton. C'est une œuvre saisissante. Je vous prédis un grand avenir.
Москва.
Moscou.
15 февраля 1890.
Le 15 février 1890. Je vous réponds, cher Alexei Nikolaevitch, immédiatement après avoir reçu votre lettre. Se peut-il vraiment que la sonate à Kreutzer ne vous ait pas plu? Je ne dirais pas qu'il s'agit là d'une œuvre géniale, éternelle, je ne suis pas juge en la matière. Par contre, à mon avis, difficile de trouver dans la montagne de choses qui s'écrivent aujourd'hui, chez nous et à l'étranger, quelque chose d'aussi fort, tant par l'importance du projet que par la beauté de son exécution. Sans parler de ses qualités artistiques, stupéfiantes dans certains passages, merci à cette nouvelle, ne serait-ce que parce qu'elle stimule à l'extrême notre pensée. On a du mal en la lisant à se retenir de crier « ça c'est la vérité » ou « ça c'est absurde ». Et là, il est vrai, de très regrettables insuffisances. Outre tout ce que vous avez énuméré, il est une chose encore que l'on n'a pas envie de pardonner à son auteur. Quoi exactement ? L'audace avec laquelle Tolstoï traite de ce qu'il ne connaît pas et par obstination refuse de comprendre. Ainsi, ses jugements sur la syphilis, les maisons d'éducation, l'aversion des femmes pour l'accouplement et ainsi de suite sont non seulement discutables, mais ils démasquent en outre l'ignorant, qui ne s'est pas donné la peine, au cours de sa longue vie, de lire deux ou trois brochures rédigées par des spécialistes. Mais en dépit de tout, ces insuffisances s'envolent comme plumes au vent. Vu la qualité de la nouvelle, on ne les remarque tout simplement pas. Et si on les remarque, on est juste un peu agacé de ce que la nouvelle n'ait pas échappé au sort de toutes les affaires humaines, qui toutes sont imparfaites et non exemptes de tâches. La nouvelle selon laquelle j'aurais regagné Moscou en voiture à cheval en compagnie de Shtcheglov a été télégraphiée par le jeune Souvorine à notre famille pour plaisanter. Or, ils l'ont cru. Quant aux 35 000 courriers en provenance des ministères qui auraient galopé chez moi pour me proposer le poste de gouverneur général de l'île de Sakhaline, ce sont des sornettes, tout simplement. Mon frère Micha a écrit au Lindvarev que je faisais des démarches pour me rendre à Sakhaline. Manifestement, ils l'ont mal compris. Je passe mes journées à lire et à prendre des notes. Il n'y a dans ma tête, comme sur le papier, rien d'autre que Sakhaline. C'est une folie. Mania Sakhalinosa. Adieu, ma colombe. Venez me voir. Mes salutations aux vôtres. Ma sœur et ma mère vous adressent leurs respectueuses salutations. Votre Anton Tchekhov.
Алексей Сергеевич Суворин.
Москва.
Около 20
Vers le 20 février 1890. Merci pour vos démarches. L'atlas de Krusenstern me sera bien utile, maintenant ou à mon retour de Sakhaline. Le mieux serait maintenant. Vous m'écrivez que sa carte est mauvaise. C'est bien parce qu'elle est mauvaise que j'en ai besoin. Car une bonne, j'en ai déjà une. Achetée 25 kopecks chez Iline. Toute la sainte journée, je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Plus je lis, plus forte est ma conviction qu'en 2 mois, je n'aurai pas le temps de faire même le quart de ce que je pensais. Mais je ne peux tout de même pas rester plus de 2 mois à Sakhaline. Ces gredins de bateau n'attendent pas. Le travail est varié, mais assommant. Il faut être tout à la fois géologue, météorologue et ethnographe. Je n'y suis pas habitué et cela m'ennuie. Je vais faire des lectures sur Sakhaline jusqu'en mars, tant que j'aurai de l'argent. Ensuite, je me remettrai au récit. Portez-vous bien, que Dieu vous accorde bien des choses. Avec mes respects, votre Anton Tchekhov. Comment vont vos très honorés chevaux? Il serait bon d'aller prendre l'air, n'importe où.
Alexandre Pavlovitch Tchekhov.
Alexandre, c'est le frère aîné d'Anton. Journaliste, il collabore à Temps Nouveau à partir de 1886. Sacha boit et mène une vie dissolue. Tchekhov le tense régulièrement dans ses lettres, mais il le fait avec affection et lui apportera toujours son soutien.
Moskva,
Moscou,
le 25
février 1890. Paramessi, j'ai absolument besoin d'avoir une connaissance la plus détaillée possible de la littérature journalistique concernant Sakhaline. Car elle ne m'intéresse pas uniquement du point de vue des informations qu'on y trouve. Les informations, cela va de soi. Mais il me faut aussi, Goussiov, un éclairage historique des faits qui constituent l'essentiel de ces informations. Ces articles ont été écrits soit par des gens qui n'étaient jamais allés à Sakhaline et ne pigeaient rien à l'affaire, soit par des gens intéressés qui, sur la question de Sakhaline, se sont constitués un capital tout en préservant leur virginité. L'impudence des premiers et les faux fuyants des seconds doivent être plus précieux aux chercheurs que toutes les informations, qui en majorité sont fortuites et fausses. Ces facteurs-là caractérisent parfaitement le rapport qu'a notre société à la chose en général, et à la question carcérale en particulier. Quant au bout, tout ce que je peux te dire, c'est « abat l'absence d'hygiène corporelle ». Le Zahar Doblomov et Alexandre Tchekhov prétendent que les poux sont inévitables. Voilà qui est très scientifique. Mais j'ai vu, figure-toi, plus d'une famille qui ne savait même pas ce qu'étaient ces bestioles. Il existe une quantité de produits contre les poux. Demande à la pharmacie une décoction de ces vadilles. Ton bienfaiteur, Anton Tchekhov.
À Natalia Mikhailovna Lindvareva.
Natalia, c'est la dernière fille des Lindvarev, propriétaire du domaine de Louka en Ukraine, où Anton loue depuis 1888 une villa pour l'été. Elle est faite comme un garçon, tout en os, musclée, hâlée, braillarde. Natalia a construit à ses frais une école où elle enseigne aux jeunes villageois.
Moskva,
Moscou,
5 mars 1890.
Le 5 mars 1890. Trouša, comment allez-vous? La comtesse Lida m'a dit que vous toussiez toujours, ce n'est pas bien. Je suppose que jusqu'à ce jour, vous vous baignez toujours dans le psel, le docteur et vous. En ce qui me concerne, je tousse aussi, mais j'ai bon pied et semble-t-il bon œil. Je ne séjournerai pas chez vous cet été, puisqu'en avril je pars pour affaires sur l'île de Sakhaline, d'où je rentrerai en décembre. Je passerai par la Sibérie, 11 000 verstes, puis par la mer. Micha vous a, semble-t-il, écrit que quelqu'un m'envoyait là-bas en mission, mais ce sont des sornettes. Je m'y envoie moi-même, à mes frais. Il y a à Sakhaline beaucoup d'ours et de fugitifs, donc, au cas où ces messieurs les fauves feraient de moi leur déjeuner, ou que m'égorgeraient quelques vagabonds, je vous prie de ne pas me garder rancune. Bien sûr, si je réussis à écrire sur Sakhaline ce que je veux, je vous enverrai le livre dès qu'il paraîtra. Il sera ennuyeux, spécialisé, ne contiendra que des chiffres, mais permettez-moi de compter sur votre indulgence. Vous retiendrez vos bâillements en le lisant. Portez-vous bien, soyez heureuse. Votre sincèrement dévoué, Anton Tchekhov.
À Alexei Sergeevich Suvorin.
Moscou, le 9 mars 1890. 40 martyrs et 10 000 alouettes. Pour ce qui est de Sakhaline, nous nous trompons tous les deux, mais vous, vraisemblablement, plus que moi. Je pars, absolument persuadé que mon voyage ne sera une contribution précieuse ni pour la littérature ni pour la science, me font à cette fin défaut tout à la fois les connaissances, le temps et les prétentions. Je n'ai ni les projets d'un Humboldt, ni même ceux d'un Kenan. Je veux écrire ne serait-ce que 100 ou 200 pages, afin de rembourser ainsi une toute petite partie de la dette que j'ai envers la médecine, avec laquelle je me comporte, vous le savez, comme un cochon. Peut-être ne serais-je pas capable d'écrire quoi que ce soit. Le voyage n'en perd cependant pas pour moi tout parfum. En lisant, en regardant autour de moi et en écoutant, je découvrirai et apprendrai beaucoup de choses. Je ne suis pas encore parti, mais grâce au livre que par nécessité j'ai maintenant lu, j'ai appris bien des choses qu'il conviendrait que chacun sût sous peine de recevoir 40 coups de fouet, des choses que j'avais l'ignorance de ne pas savoir avant. De plus, le voyage est, je présume, un labeur physique et intellectuel de 6 mois ininterrompus, ce dont j'ai absolument besoin, vu que je suis chochol et que je me suis déjà remis à paresser. Il faut se soumettre soi-même à un dressage. Admettons que mon voyage soit une bêtise, un entêtement, une lubie. Mais réfléchissez-y un peu et dites-moi ce que j'ai à perdre si je pars. Du temps? De l'argent? J'endurerai des privations? Mon temps ne vaut rien, l'argent de toute façon je n'en ai jamais. Quant aux privations, je voyagerai en voiture à cheval 25 ou 30 jours au plus. Tout le reste du temps je le passerai sur le pont d'un bateau ou dans une chambre à vous bombarder sans arrêt de lettres. Admettons que ce voyage ne m'apporte strictement rien. Mais tout de même, se peut-il vraiment que durant tout ce temps n'advienne pas 2 ou 3 jours dont je garderai toute ma vie le souvenir enthousiaste ou amer? Etc, etc. Voilà, mon bon monsieur. Tout cela n'est pas convaincant, mais ce que vous m'écrivez ne l'est pas non plus. Vous dites, par exemple, que tout le monde se fiche de Sakhaline et qu'elle n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. Est-ce vraiment vrai? Seule une société qui n'y déporte pas des milliers de gens et ne dépense pas pour elle des millions peut trouver Sakhaline inutile et sans intérêt. Après l'Australie jadis et Cayenne, Sakhaline est le seul endroit où l'on peut étudier une colonie de criminels. Toute l'Europe y voit un intérêt, mais nous, nous n'en avons que faire. Sakhaline est un lieu de souffrance intolérable. Seul l'être humain, qu'il soit libre ou asservi, est capable de souffrances pareilles. Ceux qui ont travaillé là ou dans les environs ont accompli et accomplissent aujourd'hui encore de terribles, de redoutables tâches. Je regrette de n'être pas sentimental, sinon je dirais que des lieux tels que Sakhaline devraient être des lieux de culte, où nous nous rendrions comme les Turcs vont à la Mecque. Quant aux marins et aux spécialistes des prisons, ils devraient avoir pour Sakhaline des égards tout particuliers, comme les militaires pour Sébastopol. D'après les livres que j'ai lus et que je lis encore, il est clair que nous avons laissé pourrir en prison des millions de gens. Pourrir pour rien, sans discussion, de manière barbare. Nous avons fait parcourir des milliers de verstes, dans le froid, à des êtres enchaînés. Nous les avons contaminés avec la syphilis, les avons corrompus. Nous avons multiplié le nombre des criminels et de tout cela, nous nous sommes déchargés sur des gardiens de prison, à la Trogne Vermeille. Aujourd'hui, toute l'Europe cultivée sait que les coupables ne sont pas les gardiens de prison, mais nous tous. Or, nous n'en avons rien à faire, ce n'est pas intéressant. Les fameuses années 60 n'ont rien fait pour les malades et les prisonniers, enfreignant ainsi le premier commandement de la civilisation chrétienne. De nos jours, on fait un tout petit peu quelque chose pour les malades, mais pour les prisonniers, rien du tout. L'étude de l'univers carcéral n'intéresse absolument pas nos juristes. Si, je vous assure, il faut savoir que faire de Sakhaline. Il faut s'y intéresser. Et la seule chose à regretter, c'est que ce soit moi qui aille là-bas, et non quelqu'un d'autre de plus qualifié et de plus apte à susciter un intérêt dans la société. Car moi, personnellement, j'y vais pour des vétilles. Sur ce, permettez-moi, par respect pour vous, de me jeter au fond d'un précipice et de m'y fracasser le crâne. Votre Anton Tchekhov. Oh, allez à Féodossia. Il fait un temps merveilleux.
À Ivan Leontievitch Chiglov.
Ancien officier d'artillerie, Ivan Tchekhov a d'abord publié avec succès des récits militaires sous le pseudonyme de Leontiev. Dans les années 1890, il se spécialise dans les récits et les pièces humoristiques.
Москва.
Moscou.
16 mars 1890.
Le 16 mars 1890. Bonjour mon cher Jean. Il y a un siècle que nous ne nous sommes parlé. Ma pauvre muse, vouée à des destins capricieux, a chaussé des lunettes bleues, et désertant la lyre, pratique l'ethnographie et la géologie. Oubliez les sons mélodieux et la gloire, tout est oublié. Voilà pourquoi je suis resté si longtemps sans vous écrire, mon bon ami et ex-collègue. Je dis ex, car je ne suis plus désormais homme de lettres, mais sakhaliniste. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Écrivez-moi, ne serait-ce qu'une ligne de votre écriture tragique. Ne m'abandonnez pas. Je pars en effet en avril, et il est peu probable que nous nous revoyions avant janvier. Mon itinéraire sera le suivant. Nijni, Perm, Tioumen, Tomsk, Irkoutsk, Sretensk, descente de l'amour jusqu'à Nikolaïevsk, 2 mois à Sakhaline, Nagasaki, Shanghai, Hanoï, Manille, Singapour, Madras, Colombo à Ceylan, Aden, Port Saïd, Constantinople, Odessa, Moscou, Saint-Pétersbourg, rue de Tserkovnaya. Si à Sakhaline les ours et les bagnards ne me mangent pas, si je ne succombe pas dans un typhon au Japon ou de chaleur à Aden, je reviendrai en décembre et me reposerai sur mes lauriers en attendant mes vieux jours et en ne faisant strictement rien. Voulez-vous m'accompagner? Nous nous repaîtrons des sturgeons sur l'amour et avalerons dans la baie de Castries des huîtres énormes, grasses, telles qu'on n'en a jamais vues en Europe. Nous achèterons à Sakhaline des peaux d'ours à 4 roubles la pièce pour nous faire faire des pelisses. Au Japon, nous attraperons la ch'touille japonaise, tandis qu'en Inde, nous écrirons chacun un récit exotique ou un vaudeville. Ah, les tropiques, ou le touriste malgré lui, ou un naturel de capitaine, ou l'albatros théâtral, etc. Allons-y. Écrivez-moi à une veinique, portez-vous bien et transmettez mes respectueuses salutations à votre hospitalière et cordiale épouse, votre Anton Tchekhov.
Алексей Сергеевич Суворин, Москва,
Moscou,
15
avril 1890. Et voilà, mon cher, je pars mercredi, ou jeudi au plus tard. Au revoir et à décembre. Bonne chance à vous qui restez. J'ai bien reçu l'argent et vous en remercie, bien que 1500 soit beaucoup et que je ne sache où les ranger. Pour les achats au Japon, j'en aurai assez, car j'en ai mis suffisamment de côté. J'ai l'impression de me préparer à la guerre. Bien que devant moi, je ne vois aucun danger, hormis les maux de dents qui se manifesteront infailliblement en cours de route. En ce qui concerne les papiers administratifs, je ne me munis que de mon passeport et de rien d'autre. Il est en effet possible que des heurts désagréables avec les pouvoirs en place se produisent, mais c'est là un malheur transitoire. Si on me dissimule certaines choses, j'écrirai simplement dans mon livre qu'on ne me les a pas montrées, et basta. je ne me rendrai pas malade pour autant. En cas de noyade ou autre chose du même ordre, ayez à l'esprit que tout ce que j'ai ou aurai dans l'avenir appartiendra à ma sœur. Elle paiera mes dettes. Mon adresse pour les lettres et les recommandés, poste Alexandrovsk, île de Sakhaline ou poste de Korsakovsk. Envoyez tout aux deux adresses. Pour tout cela, je vous rapporterai, sans faute, une japonaise nue, en ivoire, ou quelque chose d'autre, du genre du respectable canard qui trône sur votre étagère près de la table. En Inde, je vous écrirai un récit exotique. En route, je n'écrirai rien pour temps nouveau, sauf les samedis. Je les adresserai nommément, personnellement. Si vous jugez quelque chose digne d'intérêt qui puisse être imprimé, envoyez-le à la rédaction. Du reste, ils verront bien. Ce serait pas mal de faire des petits morceaux de 40 à 75 lignes. J'emmène ma mère jusqu'à la Trinité-Saint-Serge et ma sœur jusqu'à Kostroma. Je leur mens en leur disant que je serai de retour en septembre. À Tomsk, je vais aller voir l'université. Comme elle se compose d'une seule faculté, celle de médecine, je n'aurai donc pas l'air d'un profane en la visitant. Je me suis acheté une pelisse courte, un manteau d'officier en cuir imperméable, deux grandes bottes, un revolver et un couteau pour couper le saucisson et chasser le tigre. Je suis armé de la tête aux pieds. Eh bien, au revoir. Je vous écrirai de la Volga et de la Kama. Je salue cordialement Anna Ivanovna, Nastassia et Boris. Votre Anton Tchekhov.
Anton Tchekhov, Le voyage à Sakhaline. Premier épisode. Un manteau de cuir, un revolver et un grand couteau pour couper le saucisson et chasser le tigre. Lu par Vladislav Galar. Texte choisi par Jean Torrent. Avec les voix de Hodja Lorca et Olga Kokorina. Violoncelle et chant, Vladislav Galar. Réalisation, Christophe Hockey. Prise de son, montage, mixage, Bastien Varigaud, Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Les lettres d'Anton Tchekhov sont tirées de Vivre mes rêves, lettres d'une vie, traduction Nadine Dubourvieux, édition Robert Laffont. De La correspondance, publiée aux éditeurs français réunis. Des lettres de voyage, traduction Françoise Darnal-Lainé, édition de L'Harmattan. Et de L'amour est une région bien intéressante, traduction de Louis Martinez, édition 100 pages.